Père éternel des armées, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, l'éternel, je bénis ton saint nom et je te remercie de nous avoir donné la grâce de vivre jusqu'à ce moment, que toute la gloire te revienne. Je te confie cette réflexion, je prie que tu me donnes une langue exercée comme la plume d'un habile écrivain, afin que ce que je dirai élève ton Fils unique Yeshua, et que cette réflexion soit comprise par tous ceux qui m'écouteront. Que mes propos puissent édifier, fortifier, enlever les chaînes, briser les verrous, briser les portes des prisons. Que les écailles tombent, que les chaînes tombent également. Que les yeux s'ouvrent et que les croyances erronées soient définitivement enlevées, écrasées dans le cœur de tout un chacun de nous au nom de Yeshua. Je prie la Père et comme ta parole dit, que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est pourquoi, Père, je m'en remets à toi, afin que le peu que je dirai soit esprit et vie. Le peu que je dirai puisse édifier, fortifier, encourager ceux qui sont découragés et ressouder, recharger, rebooster ceux qui sont prêts à abandonner leur foi. Oh mon Dieu, mon Père, que toute la gloire te revienne dans le nom de Yeshua. Amen. Cette réflexion, je l'ai intitulée « Choisis ton camp ». Dans Genèse 10, le verset 25, Genèse 10, le verset 25, on nous parle d'un événement qui s'était passé. Je ne sais pas hein, ce qui s'est passé, hein, mais bon, le verset 25, on nous dit « Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, qui vient du verbe Pélag, divisé, partagé. Parce que de son temps, la terre fut partagée et le nom de son frère était Joktan. Joktan qui veut dire petit. On nous parle ici que à l'époque de Pélag, c'est pourquoi on lui a donné ce nom, Pélag, que la terre fut partagée, fut divisée en deux camps. Or, avant cela, on nous disait que lorsque Seth était né quelques chapitres auparavant, que c'est en ce moment-là que les gens ont commencé à... Voilà, c'est dans le Genèse 4, le verset 26. Seth eut aussi un fils, il appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, ce partage-là, donc, moi, je pense que ce partage, c'est entre les vrais adorateurs de Dieu et ceux qui sont contre Dieu, entre ceux qui sont pour, ceux qui sont dans l'adoration réelle de Dieu, dans le service de Dieu, dans l'obéissance à l'Éternel Dieu, et ceux-là qui ne sont pas dans l'obéissance, qui étaient contre Dieu. De la même manière, aujourd'hui aussi, cette division est palpable. Cette division se fait tout doucement, mais progressivement. Cette division se fait également, mes frères, mes sœurs. Et chacun d'entre nous, nous devons choisir notre camp. Je pense que ce partage est voulu de Dieu, puisque si nous considérons le parabole de l'ivraie, vous voyez, il y a toujours le blé et l'hiver, et l'ivraie plutôt. Quelqu'un, le fils, Dieu a semé le blé, et l'ennemi est venu semer l'ivraie. De la même manière, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, d'accord? Donc, nous devons, chaque être humain est appelé à choisir son camp. Au fur et à mesure que les années passent, Je voudrais vous lire dans Job 38, le verset 25. Job 38, le verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Verset 25. Qui a ouvert un passage à la pluie? Qui a tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Ouais, qui a partagé, dans certaines versions, c'est qui a partagé, un passage à la pluie, voilà. Et partagé la route de l'éclair et du tonnerre. Voilà, donc c'est ça. C'est ça qui a été écrit dans certaines versions. Job 38, le verset 25. D'accord? Donc, nous voyons que c'est le même mot, pelag, c'est le même verbe, palag, qui a été utilisé sur ouvert un passage à la pluie ou tracer la route de l'éclair et du tonnerre. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, de la même manière que ce partage a eu lieu, cette division de l'humanité a eu lieu au moment de Pélag. Je ne sais pas si c'est une division physique ou pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucune conviction là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que la terre a été partagée. Est-ce que c'est parce que les habitants se sont éloignés les uns des autres ou pas? Mais bon, moi, je voudrais, puisque aucune verset ne peut perdre une interprétation particulière. Donc, il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc, on nous dit que la terre a été divisée. Bon, divisée, partagée. Bon, en deux, en combien, je ne sais pas. Mais bon, je prends cela. Et je me dis que, voilà, que cette terre a été partagée en deux camps. De la même manière aujourd'hui, dont nous voyons que la terre et le monde entier se divisent de plus en plus sur la question de Dieu et surtout sur la question du Seigneur Jésus, de Yeshua. Vous voyez, ici en Europe, c'est palpable parce que au fur et à mesure que les années passent, le paganisme avance. L'ennemi se dévoile de plus en plus parce que quand on voit tous les symboles de l'Union européenne et des pays occidentaux, par exemple les États-Unis et l'Europe, tous ces symboles-là nous rappellent l'Empire romain et nous rappellent aussi la mythologie romaine. Et de plus en plus, cette mythologie est entrée au grand jour dans les institutions. Ça, les gens ne se cachent plus. Et aujourd'hui, si vous parlez de Dieu aussi en Europe, on peut vous cracher à la figure. L'Europe fait tout pour expulser Dieu. Expulser Dieu de sa sphère publique, ou bien de son histoire, effacer Dieu de son histoire. Voilà, ça nous montre que l'ennemi arrive, que l'ennemi est à la porte, que le système de l'anti-messie est là, déjà là. Donc la terre, le monde même se divise. Il y a une ligne de division qui se fait jour de plus en plus. Et les années à venir ne vont pas nous épargner, vont accentuer cette division-là. D'accord? Et l'année civile qui vient, il est vrai que beaucoup de gens font des vœux, font des choses, disent des choses, des vœux, ainsi de suite. Mais comme je le disais à quelqu'un la dernière fois, depuis que les gens font des vœux, ces vœux ne se réalisent pas. On va te souhaiter une santé de diamant et de fer. Bon, le fer, c'est pas bon parce que ça rouille en plus. Une santé de je ne sais pas quoi, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, beaucoup de ça. Mais les gens oublient que, que la parole de Dieu dit il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu, de l'Éternel qui s'accomplira. Ou on jette le dé dans le pan de la robe, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplira. Rien ne peut se faire sans l'autorisation du Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Nous devons le comprendre. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas suivre cette pratique païenne. Mais nous devons apprendre, c'est ce que la Bible nous dit, à compter nos années, apprendre à compter nos années, mes frères et sœurs. Voilà, vous connaissez mon opinion déjà, donc sur la pratique des vœux, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas là-dedans. Mais si vous avez quelque chose à me dire, allez dans votre chambre, fermez la porte derrière vous et priez. Et l'Éternel Dieu vous exaucera. Pour moi, me concernant, si vous avez quelque chose à demander pour moi, allez donc dans votre chambre, dans le secret de votre chambre, et intercédez pour moi, et priez pour moi. Et l'Éternel Dieu vous exaucera. Ici, dans le psaume 90, c'était la prière de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, en fait que nous appliquons notre cœur à la sagesse. C'est ça. Je disais tout à l'heure que la terre se divise de plus en plus. On l'a même vu avec cette crise sanitaire où beaucoup de pays se sont, même des familles se sont divisées en deux, pour et contre. Pour et contre les mesures du gouvernement, contre toutes les propositions du gouvernement, ainsi de suite. Au fur et à mesure que les années vont passer, vont arriver, vont s'enchaîner, d'accord, la division se fera de plus en plus jour et l'ennemi se fera de plus en plus visible. Donc, à chacun d'entre nous, nous devons choisir notre camp, même dans l'Église, puisque la Bible nous dit qu'il y a du blé et de l'ivraie. au fur et à mesure que les années passent, le blé va devenir mature, va porter des fruits. L'ivraie aussi va devenir mature, donc l'ivraie sera visible. Au commencement, non, les choses ne seront pas visibles. Mais au fur et à mesure que les années vont passer, donc 2023 ne va pas échapper à cela. Mes frères et sœurs, donc, appliquons-nous plutôt à bien compter nos jours, en fait que nous appliquons notre cœur à la sagesse. C'est quoi la sagesse? Appliquons notre cœur à la sagesse. La sagesse aussi fait référence à la connaissance. Nous devons appliquer notre cœur à la sagesse, parce que cette sagesse doit nous amener à mieux connaître l'Éternel Dieu. Parce que si nous comptons vraiment nos années, depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que l'Éternel Dieu nous a retirés de ce monde, hein? Normalement, nous devons avoir une bonne connaissance de Dieu. Parce que si ta connaissance de l'Éternel Dieu, de sa parole, ne change pas au fil des années, c'est que tu es en danger. Un enfant est appelé à grandir, mes frères et mes sœurs. Donc, nous devons que l'Éternel Dieu nous enseigne à bien compter nos jours. À bien compter nos jours, ce n'est pas de faire des célébrations, parce que beaucoup de chrétiens sont restés sur des rites. Vous savez, la vraie différence entre le paganisme, entre les religions païennes et la relation avec le Messie, parce que le christianisme ou messianisme, c'est la même chose. Le messianisme vient de l'hébreu machia. Et le christianisme vient du grec, le Christ loin. Les deux veulent dire la même chose, vous comprenez? Donc voilà, le christianisme et le messianisme n'est pas une religion. C'est pas quelque chose qui est, c'est pas une pratique qui est faite de rites. Vous voyez que dans le paganisme, il y a un accent qui est mis sur des rites, sur des cérémonies pour émouvoir, pour susciter des émotions, parce que il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas l'Esprit Saint là-dedans. Donc, ils sont obligés de passer par des émotions qui vont marquer la cognition de la personne. Vous voyez, qui vont marquer la cognition, qui vont imprégner son imaginaire, pour que cette personne pense que, ah oui, il a vécu quelque chose de spirituel. Mais non, parce que le vrai christianisme et le vrai messianisme, c'est une relation. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas fait de rites, de rituels, ainsi de suite. C'est ça le paganisme. Mais beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'assemblées, d'églises vont encore sacrifier à cela le 31 à coup de centaines d'euros parce que ces pasteurs qui organisent ces cérémonies se font grassement payer la nuit de la traversée ou bien la nuit de la destinée, ainsi de suite. Même les gens ont célébré la nuit de Noël, ainsi de suite. Tout le monde sait aujourd'hui que Noël n'est pas Noël ou bien que n'est pas une fête chrétienne ou bien messianique. Et que c'est du paganisme qui a été christianisé par la religion, d'accord? Mais les églises dites réveillées ou bien dites évangéliques continuent à faire comme cela. Quoi. Moi, c'est quelque chose qui me dérange proprement. Si vous voulez célébrer Noël, ok, vous pouvez, mais n'ajoutez pas Jésus. N'ajoutez pas Jésus comme on célèbre le 11 novembre ou bien je ne sais pas quoi encore. La mystique, vous pouvez le faire. Ça, puisque c'est une fête européenne. Noël, c'est une fête européenne. Mais n'ajoutez pas Jésus. Même on l'appelle même le petit Jésus. Quel blasphème. Quel blasphème, mes frères et sœurs. Donc, au fur et à mesure que les années vont venir, le monde va se diviser, l'Église va se diviser. Parce que le Seigneur Yeshua lui-même a dit que les vrais adorateurs, c'est quoi? C'est ceux qui adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Il a dit vérité. Oh, Noël est basé sur du mensonge. Il n'y a pas la vérité dedans. De la même manière, le 31 décembre est basé sur du mensonge. Il n'y a pas la vérité dedans. Mes frères, mes sœurs, apprenons à bien compter nos jours. En fait, que nous appliquons notre cœur à la sagesse. Cette sagesse doit nous amener à la connaissance. C'est ça, c'est la connaissance. Doit nous amener à la connaissance de l'Éternel Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que la foi, c'est quelque chose de vague. Beaucoup de gens, oui, quoi, oh oui, la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, tu crois que quoi? Tu crois que même les démons croient que Dieu existe et ils en tremblent. Donc, nous devons faire plus que les démons, que les esprits maléfiques. Notre foi doit être basée sur la connaissance que nous avons de la parole. Notre foi ne peut jamais dépasser notre connaissance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 10, le verset 17, Romains 10, le verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Messie. La parole du Messie, qui est lui-même aussi la parole qui est faite chair, la lumière qui était auprès de l'Éternel Dieu, qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et de vérité. Donc, notre foi doit être basée sur la connaissance que nous avons de l'Éternel Dieu. Depuis toujours, hein, c'est ce que dit Osée 4 aussi, le verset 6, où l'Éternel dit, « Mon peuple périt faute de connaissance, parce que sans la connaissance du vrai Dieu, nous ne pouvons pas avancer avec lui, nous ne pouvons pas mettre notre foi en lui. Nous croyons en Dieu, non pas que nous croyons simplement, mais nous savons que l'Éternel est le seul vrai Dieu. On peut le démontrer, on peut le prouver par A plus B. On peut prouver que l'Éternel est Dieu, le seul vrai Dieu. Parce que c'est lui seul qui a dit qu'il a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Et quand on fait la formule, lorsqu'on utilise le nombre pi pour faire la formule du cercle, pour calculer la surface du cercle ou bien le Big Bang, mais la pensée précède la réalité. Donc, il y a quelqu'un, un être qui a pensé le monde avant que cela ne se réalise. D'accord? Nous devons savoir ça, mais notre connaissance doit nous amener à savoir cela. Vous voyez? Nous devons connaître, nous savons que l'Éternel Dieu est le seul vrai Dieu. Et nous le savons aussi par les prophéties qui se sont réalisées sur Israël, sur l'Église et sur le monde. Le Seigneur a dit que Israël retournera dans son pays et ils sont retournés. Que la terre d'Israël va fleurir, ils sont retournés. Il leur a dit que s'ils n'obéissent pas, ils seront punis, dispersés aux quatre coins du monde. C'est arrivé, n'est-ce pas? Le Seigneur, Yeshua aussi a dit que Dieu a dit les prophéties qu'un Messie naîtra à Bethléem. Et le Messie est né. Comment le Messie lui-même peut amener à être né à Bethléem? Non, il ne pouvait pas. Jésus ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas lui-même s'arranger à naître à Bethléem. On a des preuves historiques de la naissance de Yeshua. Ça, c'est irréfutable. Et il a accompli les prophéties. Et tout ce qu'il a dit, elles sont en train de se réaliser aujourd'hui. Nous savons cela. Notre foi doit être basée sur cette connaissance-là. Tout ce que l'Éternel Dieu a dit, c'est réalisé. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il ne s'agit pas d'une foi vague, mais nous pouvons démontrer. C'est pourquoi nous avons besoin de cette sagesse pour mieux connaître l'Éternel Dieu, pour mieux le connaître à travers son Fils. Cette année qui arrive, il ne s'agit pas de faire des vœux pieux, hein, mes frères et sœurs, de dire santé, de faire santé, de diamants, beaucoup de succès, beaucoup d'argent, ainsi de suite. Moi, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de le connaître tel qu'il est. C'est de le connaître, c'est de vraiment d'avoir cette relation, d'être connecté à lui, partout, d'être connecté à lui. C'est pourquoi Paul, l'apôtre, dit à Timothée, dans Timothée 1 Timothée 2, 4, qu'est-ce qu'il lui dit? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est qui la vérité? C'est Yeshua. Puisque lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mon frère, ma sœur. Lisons aussi dans Éphésiens 1, 17. Nous devons tous demander à l'Éternel Dieu de nous donner la grâce de le connaître tel qu'il est. Même quand on voit, le programme de Dieu pour l'Église, qu'est-ce qu'il a dit dans Éphésiens? D'abord, lisons dans Éphésiens 1, le verset 17, la prière de Paul pour les Éphésiens et pour nous tous aujourd'hui. Parce que sans connaissance, tu es en danger. Sans une connaissance réelle de Yeshua, tu es en danger. Tu es religieux. Afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus le Messie, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de révélation dans sa connaissance. Yeshua lui-même a dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as donné comme salut, Yeshua. Mon frère et soeur, tu dois choisir ton camp. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui sont véritablement des disciples et ceux qui sont des amis, ou ceux qui sont des païens, ou ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas, d'accord? Ceux qui font des vœux pieux et ceux qui prient l'Éternel Dieu. Mon frère, ma sœur, nous devons tous aller à cette connaissance, parce que c'est cette connaissance qui va nous préserver lorsque nous serons persécutés, pourchassés. C'est cette connaissance qui va nous préserver du renoncement de notre foi, de l'apostasie, de la apostasie, mon frère, ma sœur. C'est ça, c'est cette connaissance-là qui va te préserver. Notre foi doit être basée sur une connaissance réelle de, non seulement de la parole de Dieu, mais de la personne du Messie. De la personne du Messie. C'est le but de l'Église. C'est le but des ministères que l'Éternel a mis dans l'Église. Ce n'est pas simplement un titre ronflant pour quelques personnes, voilà, qui se pavanent et qui vivent au-dessus des autres. Éphésiens 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Vous avez entendu, il a donné. Hein? Tu n'étais pas fait toi-même. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Messie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim, à l'état d'en faire la mesure de la stature parfaite du Messie. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottés, emportés à tout vent de doctrine. Voilà, donc l'année qui va venir, l'année civile, bien sûr, parce que l'année biblique est différente. L'année biblique commence en mars-avril, au mois de Nissan, le mois de Pâques. Voilà, que ça commence. D'accord? Sans connaissance, nous sommes en danger. Si nous ne connaissons pas celui qui est le Messie, celui que nous adorons, nous sommes en danger, mes frères, mes sœurs. Ainsi, nous devons tous prier pour avoir cette relation véritable, pour que les paroles là que nous lisons se concrétisent, pour que cette parole prenne vie. Et cette vie, c'est Yeshua. Il est la parole vivante. Il n'est pas une parole morte. Mais si nous sommes des religieux et que nous faisons notre sacrifice dominical, alors là, nous ne sommes pas plus que des démons, hein, parce qu'eux aussi croient que Dieu existe et ils en tremblent. Mes frères, mes sœurs, éloignons-nous de la religion, parce que la religion nous cache la face de l'Éternel Dieu. J'avais déjà écrit un article là-dessus, c'est sur le site. La religion nous cache la face de l'Éternel Dieu. C'est sur le site campagnepouryeshua.com. Lisons dans 2 Pierre 1, le verset 2. Oh non, d'abord on va voir dans Colossiens. Bon, lisons dans Colossiens 1, le verset 10. Colossiens 1, le verset 10. Nous devons choisir notre camp. L'année qui va venir peut-être sera pire que l'année dernière parce que nous nous enfonçons de jour en jour dans les ténèbres. Ouais, le diable ne se cache plus. Il suffit de voir les cérémonies grandioses, toutes les cérémonies qui se font actuellement et qui impliquent le monde entier. Il y a toujours une connotation religieuse, une connotation spirituelle et une connotation diabolique dedans. Donc, nous voyons que l'ennemi est là, que le système de l'anti-messie est déjà en place. C'est 2 Pierre. Colossiens 1:10, on nous dit. Voilà, c'est ça. 1:10, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de connaissances neuves, de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour marcher, pourquoi cela? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, de l'Éternel Dieu. C'est ça, mon frère, ma sœur, éloigne-toi de ces vœux que les païens font. Ne fais pas un vœu d'insensé. Hein? Ne fais pas un vœu d'insensé, mais rentre dans ta chambre et apprends à compter tes jours. Sache que l'année qui va venir, que nous enfonçons encore plus dans les ténèbres. Mais tout espoir n'est pas perdu, parce que la lumière luira au sein des ténèbres.
La lumière luira dans les ténèbres parce qu'au fur et à mesure que les années passent,
Le Seigneur Yeshua vient. Le Seigneur Yeshua revient. Vous savez, c'est comme si en traversant les lieux célestes, il est en train de pousser l'ennemi vers la terre. Donc l'ennemi sera encore plus virulent sur la terre jusqu'à ce que Yeshua arrive et le neutralise, mon frère, ma sœur. Donc nous devons, nous tous, chercher la connaissance, la vraie connaissance, l'épignosis qui nous permettra de connaître véritablement Yeshua, qui il est. Que notre prière, en tout cas, que ma prière pour tous mes frères et sœurs avec qui je suis en contact, hein, et qui m'écoutent sur WhatsApp ou sur le site ou bien sur d'autres supports, c'est que nous tous, nous ayons cette connaissance de la personne de Yeshua, que nous puissions le découvrir tel qu'il est, et que nous ayons cette relation avec lui, et que notre relation ne s'arrête pas simplement à quelques versets de la Bible et à quelques prières récitées à notre assemblée ou bien à quelques prédications. Mais nous devons aller au-delà du voile pour le connaître tel qu'il est. 2 Pierre 1, le verset 2. 2 Pierre 1, le verset 2. 2 Pierre 1, le verset 2. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu, Elohim, et de Jésus, Yeshua, notre Seigneur, ou Yeshua, notre Adon. Voilà, mes frères et sœurs, c'est explicite, ouais. La connaissance, notre foi, elle doit être basée sur la connaissance que nous avons de la personne de Yeshua, mes frères, mes sœurs. Voilà, donc éloignons-nous un peu de tous ces vœux stupides que nous faisons il y a encore quelques années, ainsi de suite, et demandons à l'Éternel Dieu de nous révéler son Fils. Parce que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, a dit Yeshua lui-même. Mes frères, mes sœurs. Et c'est ainsi que nous pouvons progresser donc avec lui, progresser avec lui et le connaître tel qu'il est, d'accord? Parce que la Bible nous dit également, deux personnes marchent ensemble sans en être convenues. Et si nous voulons marcher avec lui, nous devons le connaître tel qu'il est, mes frères, ma sœur. Donc, demandons cette connaissance, demandons le connaître, demandons au Père de nous révéler. S'il y a quelque chose que vous pouvez demander pour cette année civile, pour les mois à venir, c'est de connaître Yeshua. C'est de connaître Yeshua, de le connaître réellement. Ainsi, Seigneur, ainsi, mes frères, mes sœurs, vous ne renoncerez jamais, même si on vous mettait un couteau sur la gorge. Parce que comme Paul l'apôtre, il a dit à un gouverneur, je n'ai pas pu résister à cette vision. Voilà. La vision que Paul l'apôtre a eue sur le chemin de Damas l'a marquée. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient même devant la mort, il n'a jamais renoncé donc à cette vision-là. Cette vision l'a marqué comme au fer rouge, a marqué son imaginaire, a marqué son cœur, a marqué sa foi, a marqué sa cognition, comme un fer rouge, et jamais il n'a renoncé donc à cette vision, comme il a dit au gouverneur. Dans la Bible utilise le mot cœur, lèvre, et après le mot rein. Vous savez, le mot cœur en hébreu n'est pas le siège des sentiments, contrairement à ce que les Occidentaux pensent. C'est le siège de la connaissance. Le siège des sentiments chez les Hébreux, c'est plutôt les reins. Mes frères et sœurs, c'est plutôt les reins. Donc le cœur, quand on parle du cœur dans la Bible, c'est le siège de la connaissance de la sagesse. Donc demandons à l'Éternel Dieu vraiment de raffermir, de fortifier notre cœur, afin que nous puissions le connaître à travers son Fils tel qu'il est. Jacques 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. D'accord? Donc notre connaissance doit aller au, notre croyance doit aller au-delà, doit être basée sur la vraie connaissance, la connaissance du Fils de Dieu. C'est ce que Pierre même dit que ils l'ont vu, ils ont vu le Seigneur lui-même, ils l'ont vu, ils ont vu. Donc ils avaient vraiment une vraie connaissance de lui. Moi, je ne vous demande pas de voir Yeshua, mais l'Éternel Dieu nous révèle Yeshua lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous sommes vraiment, nous voulons obéir, lorsque nous demandons cette sagesse et cette connaissance de Yeshua, l'Éternel Dieu le révèle à nous et nous ne pourrons jamais renoncer à cette vision, à cette connaissance donc que nous avons de lui, mes frères, mes sœurs. Donc, ne faisons pas comme les païens, hein, comme les païens que le Dieu de ce monde a aveuglé, que le Dieu de ce monde a aveuglé et qui ne marche pas en nouveauté de vie et qui marche dans le train de ce monde. Or, nous savons que le prince de ce monde, c'est qui? C'est l'ennemi, c'est le diable. C'est lui qui, moi, je me méfie toujours, hein, quand les païens s'extasient devant quelque chose, je me méfie toujours. Je me méfie toujours quand les païens, les non-chrétiens s'extasient devant les choses, font des choses, ainsi de suite. Moi, je me méfie toujours. Voilà, je me méfie toujours parce que je me dis, il y a un loup, quoi. Il y a un loup. Quand les chrétiens ou bien les croyants en Yeshua viennent à aimer les mêmes choses que les païens, je trouve ça malsain, je trouve ça suspect. Parce que nous le savons que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, est sous la puissance du diable. Donc c'est lui qui inspire. C'est lui qui inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'événements dans ce monde. Et nous, les chrétiens, nous avons besoin de quoi? Parce que cette connaissance, cette sagesse va nous amener à avoir un discernement. Un discernement. Le discernement nous amène à séparer, à choisir notre camp, à partager, à filtrer les informations, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, tu as besoin de discernement. Tu as besoin de sagesse dans ces moments où nous sommes. Tu as besoin de connaissances réelles du Messie Yeshua. Ou bien les gens me disent, oh oui, est-ce que nous ne devons pas nous réjouir, nous aussi? Oui, tu peux te réjouir, mais dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit, Éphésiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le dis, réjouissez-vous. Philippiens 4:4, n'est-ce pas? Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Moi, j'ai vu des réveillons du 31 qui ont failli dégénérer dans une assemblée où certains étaient carrément sous. Mon frère, ma soeur, quel spectacle! On n'est pas meilleur que les païens, hein, si vous faites ces choses. J'en ai vu d'autres également, hein, où vraiment des choses se font et j'ai décidé, quand j'ai vu ces choses-là, j'ai décidé que plus jamais je n'irai dans un réveillon du 31 décembre. En tout cas, pour moi, hein, ça ne m'a pas édifié. Peut-être vous, hein, peut-être, moi je ne sais pas. Je ne critique personne. Que chacun fasse selon sa foi et selon sa vision des choses. Mes frères, mes sœurs, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Moi, ce n'est qu'une réflexion que je suis en train de faire, que nous devons choisir notre camp. Dans l'année civile qui vient 2023, nous devons plus que choisir notre camp. Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, le blé devient mature, le blé grandit, l'ivraie aussi. Et l'ivraie va étouffer certains blés, ça c'est sûr. Va étouffer certains blés, ça c'est sûr. Mon frère, ma sœur. Donc, méfions-nous, cherchons plutôt, au lieu de faire des vœux pieux, qui ne vont pas se réaliser, cherchons, regardons dans la Bible et cherchons la face de l'Éternel. Demandons la sagesse, demandons la connaissance, demandons du discernement, afin que nous puissions discerner ce qui est vil de ce qui est bon. Afin que nous puissions discerner le bien du mal, afin que nous puissions séparer le bien du mal dans notre vie. Je vais terminer en lisant un verset, ou bien un groupe de versets. Vous savez, c'est un verset qui me vient toujours, chaque fois. Bon, c'est mon expérience, je ne vous demande pas de la partager. Et chaque fois que le monde est dans la réjouissance, moi je me méfie, je me dis que nous les chrétiens, nous ne devons pas nous réjouir dans ce qui fait la joie du monde. Je ne vous demande pas de sortir du monde, de ne pas participer. On peut faire des choses, hein. Je ne dis à personne de faire comme moi. Mais moi, il y avait une assemblée et chaque 31, la première semaine de janvier, ils proclament une semaine de jeûne pour prier, chercher la face de Dieu, demander le salut des uns et des autres. Ce verset concerne donc la mort de Yeshua. Lorsqu'il avait annoncé aux disciples qu'ils ne le verront plus. De la même manière, depuis que Yeshua est parti, nous attendons sa venue, nous attendons son retour. Et c'est comme si nous sommes dans le deuil. Nous attendons son retour. Il n'est pas encore là. Et nous allons subir pas mal de choses. Les conditions dans ce monde se dégradent. Et ce verset 30 m'a toujours, en tout cas, a toujours eu un impact sur moi. Je me rappelle toujours de ce verset lorsque le monde se réjouit. Et je me rappelle toujours de ce verset parce que le monde et les démons se sont réjouis de la mort de Yeshua. Et les disciples étaient dans la tristesse. Mes frères, mes sœurs, nous allons encore traverser des moments difficiles, des moments pénibles, ça c'est sûr. L'ennemi ne va pas nous épargner. Mais néanmoins, souvenons-nous d'une chose, Yeshua revient. C'est pourquoi nous devons lever la tête. Yeshua lui-même a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Ne soyez pas troublés. Il a dit, on vous livrera. On vous livrera. Et ce ne sont pas des choses qui réjouissent, non? Quand vous êtes persécuté, quand vous êtes chassé, quand vous êtes pourchassé, quand vous ne pouvez plus tenir les réunions, quand il y a des restrictions, on ne peut pas être dans la joie. Il a dit dans Jean 16, le verset 20, « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Je relis encore. « en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. » C'est vrai que le monde aujourd'hui se réjouit un peu partout. Que ah oui, l'Église n'a plus de pouvoir, les religions, Dieu n'a plus de pouvoir, Dieu n'existe pas. Quand tu discutes avec certaines personnes, ils se réjouissent ouvertement de faire ce qu'ils veulent. Oh oui, toi tu es un bigot, tu es has-been, tu es ceci, tu es cela. On te dit des choses, des mots doux même. Hein, voilà, réjouissons-nous, faisons l'amour, machin, bidule, truc. Voilà, c'est ce que le monde dit. Hein. Aujourd'hui même, le mot amour est galvaudé. Ce n'est plus ça, le mot amour est galvaudé partout dans le monde. Et on prend le péché pour de l'amour. En vérité, je vous le dis. Donc, vous savez, nous pleurons aujourd'hui. Hein. Nous lamentons de l'état du monde. l'état du péché qui avance, des restrictions, des persécutions dont nous sommes l'objet, dont nos frères et sœurs partout dans le monde sont l'objet. Mais le monde se réjouit. Les gens célèbrent le péché un peu partout, n'est-ce pas? Avec le printemps qui va arriver, ou bien même dès le mois de février, les festivités commencent. On célèbre le péché, on célèbre la décadence, on célèbre la débauche, on célèbre l'impudicité, l'abomination dans les rues, on célèbre tout cela. Mais nous sommes dans la tristesse, mais notre tristesse va se changer en joie. Et Yeshua a donné l'exemple de la femme. C'est ce qu'il a dit même pour son retour. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le joie à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous recevrai. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen, mes frères et sœurs. C'est ça qui va se passer. Tout ce que nous allons subir va aboutir au retour du Seigneur Yeshua dans les airs et ceux qui seront encore vivants seront enlevés. Et ceux qui seront morts vont ressusciter, mes frères et sœurs. Et nous serons plutôt dans la joie. Notre douleur, la douleur que nous allons éprouver pour sortir de cette fournaise sera de courte durée. Le règne de l'ennemi sera de courte durée. Le monde se réjouira de se débarrasser de Dieu, d'avoir expulsé Dieu aux États-Unis, un peu partout, ici en Europe. On se réjouit qu'il y a eu une histoire, vous savez, l'absurdité, quoi. Une histoire, la dernière fois, il y a un maire ici, en France, qui a dit à ses élus, à ses collaborateurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ça a suscité la colère au bien. Il a dit la paix du Seigneur au bien, la bénédiction du Seigneur qu'il a soit avec vous en le souhaitant les vœux puisque à la fête de Noël dans le monde, voilà. On associe ça à la célébration de la naissance de Jésus. Il a dit ça, et puis les gens se sont levés contre lui. Hein. Vous voyez? C'est ça. C'est une absurdité. Même si je ne suis pas pour qu'on associe la naissance du Seigneur Jésus à la fête de Noël, mais quand même, je me dis, Yeshua n'est pas moins annoncé. C'est tout ce que je dis. Si certaines personnes puissent, à travers ce que l'on fait, tout le tintamarre que les uns les autres font, puissent venir à Yeshua, je dis, Yeshua, Jésus n'est pas moins annoncé. Mes frères et mes sœurs, oh oui, voilà, nous serons, les années qui vont venir, verront de plus en plus la persécution, la limitation de nos droits, et de beaucoup, beaucoup de choses. Nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas faire certaines choses si tu ne veux pas te compromettre. Voyez, et on nous dit que bientôt, nous ne pourrons plus acheter ni vendre. En tout cas, les choses vont être bloquées puisque on veut mettre en place de l'argent numérique. Tu n'auras pas d'argent liquide. C'est de l'argent numérique. Ce qui fait que le gouvernement, si tu oses quelque chose, si le gouvernement dit, par exemple, que vous ne devez plus prêcher tel sujet. Si tu prêches, on peut bloquer tes finances. On peut bloquer ta carte. La carte aussi d'identité sera virtuelle, puisque tu n'auras qu'une identité numérique unique pour faire toutes tes démarches. Ce qui fait que si c'est bloqué, ah, t'es fini. Tu n'existes plus. On peut même te tuer et te mettre dans l'acide et te dissoudre. Personne ne saura rien de ton existence. T'es fini. Vous voyez? On peut te bloquer ton compte, bloquer tes papiers. Tu ne peux même plus te déplacer, faire quoi que ce soit. Rien. Tu perds tout. Vous savez, c'est ça. La chape de plomb qui vient. Donc, mes frères, mes sœurs, restons dans la prière. Regardons à l'éternel Dieu. Ne faisons pas n'importe quoi. Peut-être que certaines personnes vont mal vivre ce que je suis en train de dire, mais ce n'est qu'une réflexion. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas, n'est-ce pas? Tout est permis, hein, mes frères, mes sœurs. Tout est permis, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la Bible dit, tout n'édifie pas, n'est-ce pas? Donc, que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Nous allons lire simplement un dernier verset qui nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et lisons le psaume 111, le verset 10, pour terminer, clôturer. Verset, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Crains-tu l'Éternel? C'est la question que je te pose. Amen et amen.